The wind. The wind's 100 knots. Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Oh my God, dude.
Radio X.
Je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Retour à la programmation principale en ce vendredi 31 janvier. Nouveau rendez-vous radiophonique du Radio X-Files. Nous sommes désormais de 18 à 19 heures et je dis retour au programme puisque l'actualité nous a permis de se promener à gauche à droite dans nos thématiques. Et je vous annonce qu'on recommence la rotation officielle ce soir avec la thématique des ovnis. Et voici l'extrait qui entame la thématique de la soirée.
Pascagoula 73 is the case we should be concentrating on. It's almost perfect. Two witnesses, interviews at the sheriff, interviews at the Air Force base, lots of other sightings, things seen in the river, all the witnesses who were on the opposite side of the river that night.
I even asked that to him before he died. I said, "Do you remember me saying there's somebody out there, I can see him?" And he said, "Yes, I do."
And on we go. It even made its way into popular culture.
So he ran the third test, and he believed just what Mr. Hickson had told him.
So you would believe them then?
Oh, yes. There's no doubt whatsoever that they were telling the truth.
The sheriff who was involved, Sheriff Fred Diamond, two nights later had his own UFOs.
I believe the beings that has contacted me since then was the beings that were controlling these robots.
If his fantasies are fact, it is the greatest threat to the well-being of the people of this nation.
I think they'd had a drink. That's just what I think about them.
Sans lui, cette émission n'est pas possible et j'espère qu'il a passé une belle semaine. Christian Page, mes hommages.
Merci, pareillement pour toi. Non, j'ai passé une très, très bonne semaine. Bon, évidemment, toute l'actualité tournait autour de ces tarifs douaniers, là, donc oui. Ça a mobilisé toute l'actualité. Mais bon, effectivement, comme tu l'as mentionné en début d'émission, on revient à notre programmation, notre rotation de nos émissions. Donc ce soir, on revient sur la thématique des ovnis, même s'il y a deux semaines, on avait fait une émission spéciale pour parler du projet Ciel Canada.
Qui était nécessaire, en plus, qui était nécessaire tu as été un contributeur de ce rapport-là. Donc...
Voilà, et on voulait en discuter parce que ça faisait partie de l'actualité. Et maintenant que tout tourne autour des tarifs douaniers, on peut revenir avec des sujets, disons, qui nous intéressent davantage, à moins de faire une chronique financière, ce qui n'est pas ma spécialité.
Moi non plus, je regarde mon compte en banque et non, je ne donnerai pas de conseils à personne là-dessus.
J'ai de la misère à lire la facture quand j'arrive au restaurant, donc je cherche tout le temps quelqu'un d'autre pour la payer.
Bon, je la garde, celle-là, je l'aime vraiment. On reste un peu dans l'actuel quand même, parce que l'extrait que tu viens de nous faire entendre est une nouvelle série documentaire qui est parue en début d'année.
Oui, en fait, elle n'est même pas encore diffusée. Hein. On nous l'annonce à grande publicité. C'est une série qui va en 4 épisodes, une série documentaire en 4 épisodes, qui sera diffusée sur la chaîne Prime Video, okay. La chaîne d'Amazon, finalement. Et la série sera disponible, semble-t-il, en tout cas, aux dernières nouvelles, on l'annonçait pour le 20 février prochain.
Ah, OK.
Donc, cette série s'appelle Pascagoula 73. Donc, on a entendu la bande-annonce. Je l'ai un peu réduite parce que la bande-annonce est très longue. Elle dure 2 minutes.
Oui, puis à la radio, des... Ouais, à maner en 30 secondes,
on voit
c'est
pas,
correct.
Quand on ne voit pas les images aussi, bon. Et donc, grosso modo, l'histoire tourne... C'est un documentaire en 4 épisodes, comme je l'ai mentionné, qui tourne autour d'un événement qui s'est produit le 11 octobre 1973 à Pascagoula. Pascagoula, ça se trouve au Mississippi, tout près de la frontière de la Floride, d'ailleurs. C'est la partie du Mississippi qui est entre la Louisiane et la Floride.
Okay.
Et le 11 octobre 1973... Bon, je raconte rapidement les faits. Il est à peu près 22h50. On a deux individus, un qui s'appelle Charles Hickson, qui a 42 ans. Il est avec un ami, Calvin Parker, oui, qui a 19 ans. Les deux se connaissent parce que, bon, c'est une relation un peu presque père-fils. Ils se connaissent, ils ont habité, les Parker et les Hickson ont habité tout près l'un de l'autre. Et finalement, Charles Hickson a grandi avec la famille Parker et a vu grandir le petit Calvin Parker. Et éventuellement, il lui a même permis de trouver du travail dans un chantier naval, le chantier naval de Schumpeter, où lui-même, Charles Hickson, travaille. Donc, on voit cette relation entre ces deux hommes, là, vraiment une relation père-fils. Et ce soir du 11 octobre 1973, les deux hommes décident d'aller pêcher. Donc, ils essaient... Et comme ils connaissent bien l'endroit, on a le chantier naval qui est là, il est surplombé par l'autoroute 90, c'est la rivière Mississippi qui coule à ce moment-là, la rivière Passagoula qui coule à cet endroit-là. Donc, ils sont là, ils essaient quelques endroits, et puis à un moment donné, ils trouvent un débarcadère juste pratiquement en dessous de l'autoroute 90, et puis ils lancent leur ligne. Et puis à ce moment-là, il va se produire un événement, ils voient arriver... venant de la terre, hein? Donc c'est pas, ça vient pas du ciel, ça vient pas de la rivière. Il voit comme se dirigeant, comme si c'était parti derrière le chantier naval. Il voit deux lumières qui clignotent, bleues, qui s'approchent. Et là, évidemment, je raconte l'histoire telle que eux l'ont racontée.
Okay.
Après ça, prendre position par rapport à ce qui est raconté, c'est autre chose.
Mais c'est là, un témoignage.
Voilà. Donc, Charles Hickson, qui est le principal témoin de l'événement, dit « Ben voilà, je vois ces lumières qui s'approchent. » Et au début, il pense à une voiture de police qui s'approcherait pour savoir ce qu'ils font là, près des chantiers navals, du chantier naval. Est-ce que ce sont des employés? Y a-t-il quelque chose? Donc, il voit ces lumières s'approcher. Et là, plus les lumières s'approchent, elles se déplacent un peu du côté de la rivière. Et là, il constate que ce n'est pas une voiture, comme il l'aurait cru, mais un objet qui est plus ou moins de forme ovoïde, mais qui a une partie qui semble plus pointue. On pourrait comparer ça un peu à une goutte d'eau, hein? Donc une partie plus pointue, d'un autre qui est plus, il y a un renflement plus bombé. Et il y a deux lumières bleues sur cet objet qui semble clignoter. Et donc ils regardent ça, ils sont étonnés. Les deux hommes n'ont jamais rien vu de semblable, on les comprend. Et soudain, une porte, une espèce de porte à glissière va s'ouvrir sur le côté de l'objet et trois créatures vont en sortir. Toujours, je me réfère toujours au témoignage de Charles Hickson. Trois créatures vont en sortir, qu'il va décrire, ce sont des créatures très atypiques, hein, c'est pas le genre de truc que, d'ailleurs, je pense que dans la littérature sur les ovnis, c'est probablement la seule description du genre que l'on a.
Okay.
Ce sont des créatures qu'il dit, ça ressemblait un peu à des momies. Hein, donc, on avait l'impression qu'elles avaient une peau grisâtre qui était ou plissée ou entourée de bandelettes. Là, c'est un peu l'impression que ça donne, mais plus comme plissée, comme une peau d'éléphant. Les créatures ont les jambes collées ensemble.
Hein?
Il semble distinguer des renflements qui semblent indiquer que les créatures auraient deux jambes, mais vraiment, les jambes sont collées l'une sur l'autre. Et elles ont des bras qui sont terminés non pas par des mains, mais par des pinces, semblables à celles des crabes.
Okay.
La tête est une espèce de bulbe où il y a trois pics, hein, un pic pour chaque oreille et un pic comme pour le nez, hein, des pics qui ressemblent à des glaçons. Donc, imaginons une tête, il ne voit pas d'yeux, il ne voit pas de bouche.
C'est quand même dur à figurer, Christian.
Il dira peut-être, ouais, il dit peut-être une fente à la place de la bouche, mais tellement perdu dans les replis de la peau, qui ressemble un peu à une peau d'éléphant.
Okay.
Il ne voit pas vraiment une bouche, mais il dit, bon, ben, ils ont un nez qui est comme un pic de glace, et de chaque côté, deux oreilles qui ressemblent à des pics de glace également. Donc, ces créatures sortent de ce vaisseau. Elles arrivent en flottant et elles s'approchent du débarcadère où se trouvent Charles Hickson et Calvin Parker. Et à ce moment-là, Parker perd conscience. Il est tellement terrifié par ce qui se produit qu'il perd conscience. Charles Hickson, lui, va demeurer conscient tout le long de l'expérience. Les créatures arrivent, elles vont le saisir, lui, de chaque côté par le bras. La troisième va se charger de monter Calvin Parker, de prendre Calvin Parker, et en flottant littéralement dans l'air, elles vont les introduire dans le vaisseau. Ils sont immédiatement séparés, Et Charles Dixon, évidemment, ne peut parler à ce moment-là que de son expérience à lui. Il dit qu'il se retrouve dans une pièce. Il a l'impression d'être étendu sur une table, quoiqu'il ne la voit pas vraiment. Il est placé pas tout à fait de manière horizontale, mais un peu à un angle de 45 degrés. Et là, il y a ces espèces de créatures qu'il a tendance à croire un peu comme si c'était des robots. Hein. Leur comportement semble un peu à la fois statique ou mécanique. Ouais, c'est ça. Leurs mouvements sont un peu mécaniques. Et à un moment donné, alors qu'il est dans l'engin, il dit qu'il voit sortir du mur une espèce de boule qui ressemble à un œil, qui va le scruter, tourner autour de lui. Et puis après cet examen visuel, appelons ça comme ça, les créatures reviennent, ces fameuses créatures à pinces de crabe vont le prendre et le ramener sur le débarcadère où déjà Calvin Parker a été ramené aussi. Et au moment où les créatures remontent dans l'engin, Calvin Parker semble reprendre conscience. Et là, bon, ils vont observer l'objet qui s'éloigne. Donc ça, c'est le récit qu'ils vont faire. Bon, je ne sais pas trop comment je dois l'aborder. Est-ce que je dois l'aborder du côté du croyant ou le côté du sceptique? Bon, ben, disons qu'il y a beaucoup de choses dans ce récit-là. Mettons le récit de côté.
Oui.
Regardons simplement ce qu'ils vont faire. Bon, là, il y a quand même des choses qui sont un peu étranges. Hein? Bon, ils s'en vont, ils décident d'aller, bon, ils diront plus tard, on ne veut pas de publicité, mais leur première réaction, c'est d'aller au journal local.
Bon, ça, c'est...
On ne veut pas de publicité, mais on va quand même au journal local.
On veut que l'histoire se relaie.
Et quand on pose la question à Charles Dixon, pourquoi aller au journal local, il répond, ben parce que, finalement, parce que évidemment, il ne pourra pas parler aux journalistes, le journal local est fermé. Donc, il se bute sur une porte, il est à peu près 11h, 11h15, la porte du local est fermée. Mais dans le hall du journal local, il y a une grande horloge qui est visible depuis la rue. Hein. Si on regarde par les fenêtres, on voit cette grande horloge au-dessus du comptoir de la réception. Alors, il va répondre plus tard, ben, c'est parce que je voulais savoir quelle heure il était. Bon, je pense que ça, il aurait pu le demander à un passant, là, ça aurait fonctionné. Là. Bon, il y a déjà cet élément-là qui est un peu étrange. Aussi, quand il remonte dans la voiture, il dit qu'il y avait apparemment une telle chaleur qui s'était dégagée de l'objet lorsqu'ils s'étaient approchés d'eux et étaient passés aux côtés de leur voiture, qu'une des fenêtres aurait éclaté par la chaleur. Malheureusement, okay. Ni lui, ni Calvin Parker, ni le shérif, ni personne n'a songé à prendre une photo de la fameuse vitre éclatée. On aurait bien aimé voir ça. Ça aurait été pas significatif.
À l'époque,
hein,
des Polaroids quand même, là, tu sais, ouais, mais tout est possible.
Oui, mais c'est sûr aussi que ça aurait pas été significatif. Une vitre éclatée, tu as pu l'éclater avec un coup de marteau. Tu sais, je veux dire, bon, moi, je me promène en ville, puis toi aussi, tu dois certainement te voir de temps en temps des voitures avec une espèce de toile sur une fenêtre.
Hein? Oui, ça arrive.
Ça arrive qu'une vitre soit brisée. On ne veut pas nécessairement dire que c'est un vaisseau extraterrestre qui l'a brisée, mais bon, on aurait quand même aimé voir une photographie de la voiture soumise à la chaleur ou la fenêtre brisée. Bref, nos deux bonhommes se heurtent à la porte du journal local qui est fermé. Et là, il y a conciliabule. Que fait-on? Ben, rien de mieux pour s'éclairer les esprits que d'aller au bar local. Donc, on va au bar local, on prend une bière ou deux.
Il s'est passé combien de temps dans le laps de temps de ton histoire, Christian?
Il y a à peu près une heure. Entre le moment où, finalement, ils décident d'aller au bureau du shérif pour aller raconter leur histoire, il y a à peu près une heure qui s'est écoulée. Et là, ils vont raconter leur histoire au shérif. Bon, je ne veux pas raconter toute l'histoire parce que j'ai déjà fait à une époque, il y a un balado sur une autre station que j'ai fait sur cette histoire-là. Et il y a quelques années, j'avais fait également une émission avec Marceau où on avait détaillé cette histoire-là.
Okay.
Mais tout ça pour dire que, contrairement à ce qui est dit dans ce documentaire ou en tout cas dans la bande-annonce, comme je n'ai pas vu le documentaire, je ne peux pas me prononcer, mais quand on dit « Ah, c'est un cas presque parfait », ben, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont puiser leur truc, mais cette histoire-là, elle est excessivement mauvaise. Elle est mauvaise pour plein d'éléments. Et on n'a pas besoin d'être un grand clair, puis on n'a même pas besoin d'être un sceptique. Tu sais, tu dis, bon, attends une minute, là. Ils se font enlever par une machine volante alors qu'ils se trouvent exactement sous l'autoroute 90. Personne sur l'autoroute 90 a vu le vaisseau spatial. Et c'est un peu comme si tu dis, ben moi, je me suis fait enlever là, juste au côté du pont Pierre-Laporte.
C'est
à 11h le soir, puis personne n'a rien vu. Là. On a quand même des problèmes. Et évidemment, c'est sûr que les gens diront, c'est pas vrai, il y a des témoins qui sont sortis. Oui, mais les témoins sont sortis après que l'histoire a été publiée dans les journaux. Et ça, c'est et à ce niveau-là, on sait comment fonctionnent les médias. Si moi, demain matin, je dis, même si c'est pas vrai, je dis j'ai vu un ovni alors que je circulais sur le pont Pierre-Laporte, tu peux être certain que dans les jours qui vont venir, des gens vont prétendre l'avoir vu également.
Pour se donner de l'importance.
Voilà, pour on veut faire partie de l'actualité. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'avant que l'histoire de Hixon et Parker soit connue, soit publiée dans les journaux, personne n'a appelé une radio locale avant que l'histoire soit connue. Personne n'a appelé les journaux pour dire « Hey, je roulais sur l'autoroute 90 hier soir, puis j'ai vu une espèce de machine avec des lumières, c'est extraordinaire. » Personne ne fait ça. Tous les récits, tous les témoignages, puis ils ne sont pas très nombreux, là. Il y a peut-être 4 ou 5 personnes qui, après coup, ont appelé la radio ou les journaux pour dire « Ah, j'ai peut-être vu quelque chose alors que je circulais sur l'autoroute 90. » Mais tous ces gens-là ne se sont manifestés qu'après que l'histoire a été publiée dans les journaux. Personne de leur propre chef, je ne remets pas en question leur témoignage. Mais tu sais, il est possible qu'après que l'histoire soit sortie dans le journal, quelqu'un dise « Hey, il me semble que j'ai roulé sur l'autoroute 90 il y a 3-4 jours, puis il me semble que j'ai vu une lumière. » Tu sais, cette lumière-là était-elle la même observée par Hixon et Parker? Est-ce que c'était pas la planète Vénus? C'est un avion? Tu sais, il peut avoir 1000 raisons. Tu sais, les gens peuvent inventer des histoires pour faire partie de l'histoire, ou des gens, en lisant cette histoire-là, vont peut-être se rappeler des événements qui ne sont pas tout à fait soit à la bonne date, à la même heure, soit pas nécessairement
mélanger
ce que
les souvenirs ensemble.
Mélanger les souvenirs et soudainement, ça fait partie de l'actualité.
Un témoignage qui semble faire patate assez rapidement, c'est assez curieux qu'en 2025, on la relance.
Oui, et après ça, on dit, bon, ils ont été interrogés par l'armée. Ben ça, tu peux être interrogé par l'armée, mais ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que l'armée n'a trouvé aucun intérêt dans cette histoire-là. Donc, les types, ils ont parlé. D'ailleurs, il y a des trucs qui sont intéressants. Et tu vas comprendre, il faut insister sur ces éléments-là parce que, à mon avis, c'est là le talon d'Achille. Quand ils rencontrent le shérif leur pose la question. À ce moment-là, on s'entend bien, là. Il n'y a pas de journaux, il n'y a rien, personne ne connaît leur histoire. Ils sont seuls dans le bureau du shérif. Suis-moi bien, là.
Oui.
Tu vas comprendre que si tu as un petit peu de Sherlock Holmes dans le nez, là, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas.
Mm-hmm.
Ils sont seuls avec le shérif. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, là. Ils sont seuls avec le shérif. Le shérif leur pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Hixon raconte son histoire, la machine qui arrive, les bonhommes, etc. Il est amené à bord de l'OVNI. Quand il pose la même question à Calvin Parker, Parker répond « Je ne peux rien vous raconter parce que j'étais inconscient. » Donc il se rappelle, il dit « Je me rappelle les lumières qui arrivent, mais tout le reste, les bonhommes à pattes de crabe et tout ça, moi j'ai rien vu de ça parce que j'étais sans connaissance.
Mmh. »
OK, parfait.
Un sur deux.
Et là, on les place dans une pièce. À leur insu, ils ne le savent pas. Il y a également un magnétophone qui fonctionne. Et ils échangent entre eux, et on entend Charles Hixon qui parle, et il parle à Calvin Parker. C'est un enregistrement de très mauvaise qualité, mais on arrive à entendre un peu ce qu'ils disent. Et Charles Hixon n'arrête pas de répéter « Ah, c'est incroyable, c'est fantastique ». On a vraiment l'impression que le discours qu'il tient, c'est celui d'un homme qui a été témoin de quelque chose d'étrange. Mais Calvin Parker ne cesse de répondre dans la pièce. « Ah, c'est incroyable, comment j'ai fait pour perdre connaissance, puis j'ai pas vu ça, puis ah, j'aurais tellement aimé ça, mais je sais pas pourquoi. » Donc, il reconnaît qu'il n'a rien vu, là. Il peut pas prétendre après, et c'est malheureusement ça qu'il va faire, il va prétendre après « Ouais, mais quand j'ai dit ça, c'est parce que je voulais pas de publicité. » Non, non. À ce moment-là, là, tu ne sais pas que tu es enregistré. Tu es tout seul avec le bureau du shérif. Il n'y a rien, mais strictement rien qui peut justifier ton silence. Rien du tout. Et il répète à la fois devant le shérif et il répète à la fois dans cette pièce, alors qu'il est avec Charles Hixon seul et qu'ils sont enregistrés à leur insu, qu'il n'a rien vu. Il n'a strictement rien vu.
Okay.
Et là, éventuellement, oui, ils vont être interrogés parce que le shérif va appeler la base militaire de Pensacola et ils vont aller là, ils vont se rendre sur place. À la base militaire, on va leur faire un examen. Finalement, on ne voit rien de particulier. Puis bon, on n'a pas de rapport d'observation d'OVNI qui a été signalé dans le secteur à ce moment-là aux autorités militaires. Il n'y avait pas de manœuvre non plus. Donc, oui, ils sont interrogés par l'armée, mais on ne voit pas beaucoup d'intérêt. Et puis ensuite de ça, leur témoignage est rapporté évidemment à la presse. Le shérif Red Diamond ne se cache pas le lendemain. Hein, lorsque les journaux arrivent, ils posent la question au shérif Diamond. Oui, y a-t-il quelque chose d'intéressant qui s'est passé la nuit dernière? Fait que le chéri dit, oui, il y a un chat qui s'est fait écraser au coin de la rue. On a eu un petit vol par effraction dans le quartier S. Ah oui, puis en passant, il y a deux gosses à un débarcadère qui disent qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres. Non. Donc tu comprends que ça fait la une des journaux. Et donc ils en parlent. Il y a plusieurs éléments, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, il y a plusieurs éléments là-dedans qui ne tiennent pas la route. Mais ce qui est le plus important de retenir, c'est de se dire que quand une histoire se transforme avec les années, et cette histoire-là, elle est complètement transformée. L'histoire qu'on nous raconte aujourd'hui n'est pas celle de 1973.
Okay.
Avec les années, Charles Dixon, en 1983, il a écrit un livre avec un certain William Mendes qui s'appelle « UFO Contact at Pascagoula ». Dix ans plus tard, il raconte cette histoire de 1973 sur le bord de la rivière. Et il raconte après ça qu'il a été visité par d'autres extraterrestres qui parlent par télépathie. Bon, tu vois un peu le genre.
Bon, une fois que tu as fait le contact avec un, ça évite les autres.
Ben oui. De son côté, Calvin Parker, c'est complètement effacé. Hein, parce que Calvin Parker, c'était le gars qui avait rien vu, finalement.
Okay.
Fait qu'il a assisté à quelques... Au tout début, quand cette histoire-là a été très médiatisée, Calvin Parker a assisté à quelques activités à caractère OVNI, là, des congrès sur les OVNI. Waouh, le voici, Calvin Parker! Mais il arrivait au micro pour dire « Ouais, je suis Calvin Parker et j'ai rien vu! » Bon, fait que finalement, il est passé un peu dans l'ombre. Et c'est surtout Charles Dixon qu'on a vu à la télé, dans toutes sortes d'entrevues. Et on voyait clairement que le monsieur, quelles que soient ses raisons, là, je veux dire, il peut avoir mille raisons, mais quelles que soient ses raisons, on voyait clairement qu'il essayait de capitaliser sur cette histoire-là. Et puis, tout à coup, alors qu'on avait... Et là, ce Charles Dixon, il décède éventuellement. Il va décéder en 2011, à l'âge de 80 ans. Et tout d'un coup, après la mort de Charles Dixon, que se passe-t-il? Calvin Parker réapparaît.
Ah.
Lui qu'on n'avait pas entendu depuis pratiquement 40 ans, il ressort de l'ombre. Je me rappelle de tout. Ah oui! Ah oui!
Même que tu te souvenais pas. Wow.
Il se rappelle de tout, ma petite fille. Je te le dis, il a caché cette histoire-là. Il voulait pas en parler. Et là, il te raconte. Et là, il a été soumis à l'hypnose par nul autre que Bud Hopkins, dont son épouse, d'ailleurs, Carol Riney, a raconté qu'à son décès, elle avait mis la main sur des cassettes de Bud Hopkins qui plaçaient des gens qui disaient avoir été enlevés par des extraterrestres. Elle est tombée sur des cassettes dans lesquelles elle voyait clairement que son mari mettait des gens sous hypnose et introduisait dans le discours hypnotique l'enlèvement extraterrestre. C'est la personne sous hypnose, disait, ouais, je sais pas. Puis là, Bud Hopkins disait, oui, t'as été enlevé, tu comprends-tu? Et là, bien évidemment, les gens, on le sait maintenant que l'hypnose, ça crée des faux souvenirs. Qui plus est, si l'hypnotiseur ou l'hypnothérapeute introduit des données de cette manière-là, tu vas les assimiler. Et ça, c'est le danger, justement, d'avoir recours à l'hypnose. D'ailleurs, c'est amusant de mentionner que dans l'univers. Dans toutes les sphères d'activité professionnelle, qui la psychologie, la psychiatrie, la médecine, bon, dans toutes ces sphères d'activité-là, ont mis de côté l'hypnose. On le sait que l'hypnose et la mémoire, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est inutile. Et on le sait, quand il y a eu ce qu'on a appelé la vague de la satanique panique aux États-Unis dans les années 80,
ouais.
Des gens, on mettait sous hypnose, puis ils racontaient qu'il avait joué à touche-pipi avec mon oncle Marcel à l'époque où il était membre d'une secte satanique quand il avait 4 ou 5 ans. Et tout ça, ça a été débouté devant les tribunaux. Là. Des experts sont venus puis ont dit non. La mémoire occultée, ça n'existe pas.
Hmm.
C'est-à-dire que tu ne peux pas, il n'y a pas une place dans ton cerveau là, où tu caches de l'information, là, puis que tu t'en rends pas compte, puis qu'éventuellement, en te plaçant sous hypnose, tu vas aller chercher cette information-là et que tu vas la régurgiter de manière objective et factuelle. Ça n'existe pas, ça. On le sait maintenant. Les deux seules sphères d'activité où on continue de croire ça, malgré les années écoulées, c'est dans l'univers des ovnis et des vies antérieures.
Ouais,
ça,
les médiums.
Les médiums, eux autres continuent de croire ça. Même si dans toutes les autres sphères d'activité, ça a été dénoncé comme étant de la fraude, que ça ne fonctionne pas, mais on comprend que pour ça, les amateurs d'OVNI, mettre quelqu'un sous hypnose puis te raconte qu'il était enlevé, mais qu'il ne s'en rappelle pas de manière consciente, ça fonctionne bien. Ça crée une espèce de mythe. Mais c'est de la foutaise. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Donc, on a un Calvin Parker qui, après la mort de Charles Dixon...
Qui a l'air d'un gars qui a repris le narratif. Christian, on s'entend, là. Il a essayé de faire...
Là, il raconte que quand il était dans le vaisseau, il a vu une autre créature, un grand blond. C'est un tout autre discours qu'il raconte. C'est plus du tout l'histoire qui a été racontée à l'époque. Et ça, à ce moment-là, ça sent malheureusement l'arnaque à plein nez. Et là, évidemment, à force de parler de ça, là, il y a un nouveau témoin qui, elle aussi, une femme qui a gardé le silence pendant 50 ans, qui dit qu'elle était de l'autre côté de la rivière, elle a vu l'OVNI, elle a vu une des créatures sortir de l'eau, pas sortir de l'OVNI, sortir de l'eau. Son mari était enlevé. Il a fait une confession sur son lit de mort. Donc, le mari est mort, il ne peut pas en parler. Donc, il y a elle qui en raconte. C'est une histoire épouvantable. Tu dis, mais mon Dieu, c'est ridicule. Fait, quand j'écoute la bande-annonce, je n'ai pas vu la série, mais quand j'écoute la bande-annonce, puis bon, la bande-annonce, celui qu'on voit qui tire les ficelles un peu de cette émission-là, c'est Philip Mantle. Puis Philip Mantle, ben justement, c'est un amateur d'OVNI. Il a écrit Beyond Reasonable Doubt, qui parle de cette histoire, et en partie le documentaire est sûrement basé sur son livre, parce que lui est persuadé que cette histoire vraie, que cette histoire est vraie. Je rappelle que Philip Mantle, c'est celui qui, dans les années 90, avait fait la promotion du film de l'autopsie de l'extraterrestre. Donc, il n'était pas impliqué dans l'arnaque, mais il en a fait la promotion quand même. Donc, on peut quand même juger de son sens critique ici. Quand il y a une pièce à faire, Philip Mantle est là. Donc, et encore une fois, on le voit. Mais ça sent mauvais, là. Quand je ne fais qu'écouter la bande-annonce, puis ah oui, c'est un cas presque parfait. Aïe, aïe! Ça, si ça, c'est ton cas parfait, là, et je me demande à quoi doit ressembler ton cas parfait, parce que ça, là, c'est mauvais comme histoire, là. Tu sais, là, ça a été déboulonné d'un bout à l'autre. Il n'y a rien qui tient la route là-dedans, là. Et là, il en rajoute, oui, ils ont été interrogés par l'armée. Oui, mais l'armée n'a pas jugé ça intéressant. Tu sais, le shérif Diamond, il a le droit de croire ce qu'il veut, le shérif Diamond. Tu sais, bon. Puis quand le shérif Diamond dit, je suis convaincu que ce type-là dit la vérité, il ne parle que de Charles Dixon. Je me rappelle que le shérif Diamond avait été impressionné parce que dans le petit enregistrement, quand Dixon et Parker se retrouvent dans une pièce seule, et Charles Dixon n'arrête pas de répéter « Ah, oh, c'est incroyable », ça sent la sincérité. Mais bon...
Ça se fake aussi,
ça,
hein?
Oui, c'est ça. Voilà,
je vais
ça,
me permettre d'être sceptique, Christian.
Oui, t'as tout à fait raison. Puis, tu sais,
les bons comédiens,
le meilleur moment dans la bande-annonce, c'est ces deux femmes qui, à un moment donné, à la toute fin, on les entend. Je dis, ouais, je pense qu'il y avait pas mal tiré un petit coup ce soir-là, tu sais. Ben, je pense que c'est exactement ça qui s'est passé. Ça, c'est l'affaire de Pascagoula, ça se passe à l'automne de 1973. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a une vague d'observations qui se produit aux États-Unis. D'observation d'OVNI. Les OVNI sont excessivement populaires. La presse en parle pratiquement tous les jours. Il n'y a pas un État aux États-Unis qui échappe à la vague de soucoupe volante. Et tout à coup arrive l'histoire de Calvin Parker et de Charles Dixon. On va quand même attendre de voir le documentaire. Je t'en reparlerai à ce moment-là.
J'ai hâte d'avoir ta critique. Parce que tu es critique, justement, sur les documentaires. Puis là, si tu me dis que l'histoire a évolué au fil des décennies, qu'en reste-t-il?
Oui, plus qu'évoluer, là, elle est transformée. Et ça, n'importe... Tu sais, les policiers, là, n'importe quel bon policier va dire, là, quand un témoin commence à changer son histoire, là, ça sent mauvais en tabarnouche. Et ça, là, c'est la règle d'or. Hein. D'ailleurs, combien de fois, quand j'ai fait mes séries, là, Tueurs de l'occulte et tout le reste, combien de fois j'ai entendu des policiers me répéter « Si tu mens, tiens-toi-en tes mensonges. Ouais. Change pas ton histoire.
Change pas la version.
Parce que, non, parce que dès que tu commences à changer ton histoire, ça sent mauvais. Et cette histoire-là, là, je le répète, là, l'histoire que raconte Calvin Parker aujourd'hui, ben là, il est décédé en 2023 à l'âge de 68 ans.
Ah, OK, récent quand même.
Oui, il est décédé d'un cancer des reins, mais jusqu'à la toute fin, là. Donc, il réapparaît, comme je te le mentionne, il réapparaît aux alentours de... il va écrire d'ailleurs deux livres, hein, Mon histoire, en 2018, et l'année suivante, il écrit New Evidence, mais jusqu'en 2018, là, entre 1973 et 2018, Calvin Parker était complètement effacé, là. Donc, il réapparaît. Est-ce qu'il faut voir là-dedans? Puis je ne veux pas être méchant, là. Je sais ce que c'est le cancer, là. Je peux en parler en connaissance de cause.
Ouais.
Est-ce que Calvin Parker a dit, ben voilà, je suis atteint d'une maladie incurable, en phase terminale, je vais essayer de faire un coup d'argent avec quelque chose qui est resté un peu dans l'imaginaire, quels que soient ses motifs? C'est une chose qu'il faut retenir, c'est que l'histoire qu'il raconte, la nouvelle histoire qu'il raconte en 2018 n'a plus rien à voir avec l'histoire qu'il racontait en 1973. Et ça, n'importe quel policier te diront, ça sent mauvais.
On aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. J'ai hâte d'entendre ce que tu auras à post-mortem de tout ça, là, justement, après ton écoute des 4 épisodes qui vont être sur Prime Video. Donc, avis aux auditeurs aussi qui voudraient l'écouter d'ici fin février, si on n'a pas d'annonce avant. Christian, je te dirais de faire peut-être une pause tout de suite et on s'attaquerait au prochain sujet dans quelques minutes.
Absolument, on y va.
Parfait.
Radio X Files avec Christian Page et Camille. Radio X.
De retour à l'émission ce soir, édition du 31 janvier. Christian, on est dans la thématique des ovnis et tu veux nous parler des, et attention mon anglais, Unidentified Anomalous Phenomena.
Les UAP.
Les UAP, hein? Oui, pour faire plus court.
Et,
hein?
Et oui, et ce que je veux te parler, c'est, on se rappellera qu'en décembre dernier, il y avait eu une espèce de frénésie dans la presse, principalement la presse américaine de la côte Est, pour parler de ces phénomènes aériens non identifiés ou
oui.
Ces drones inconnus qui étaient observés de façon très massive au-dessus du New Jersey. Et c'est amusant parce que ça me fait toujours un peu sourire parce que j'ai commenté cette histoire-là dans la presse, on le comprend, sur plusieurs réseaux, on m'a appelé, on me dit « qu'est-ce que vous en pensez? »
Beaucoup d'auditeurs t'ont posé la question aussi, hein?
Oui, et j'ai répondu que tout ça me paraissait comme étant une hystérie collective. C'est-à-dire que des gens, probablement qu'il y avait 2 ou 3 observations qui étaient authentiques, de drones par exemple, et des gens avaient vu ça, on en a parlé dans la presse, et à partir du moment où il y a un écho dans la presse, bien, plein de gens sortent sur leur balcon, regardent, lèvent les yeux au ciel, et même ça fait 10 ans qu'il est là, il n'a pas remarqué que la planète Vénus apparaît à chaque période de l'année, invisible là, où les avions qui regagnent l'aéroport de Newark passe par là, il n'avait pas remarqué ça. Mais là, soudainement, il prend conscience de ça et là, les gens se sont mis à appeler. Là, il y avait cette espèce de frénésie. Et là, moi, j'avais dit, c'est clairement un phénomène d'hystérie collective. Puis, ça se produit régulièrement. Hein. On pourrait regarder là, dans la littérature, dans les journaux, des moments où, comme ça, il y a eu une espèce de frénésie autour d'un sujet. Ça a duré quelques semaines, puis là, tout d'un coup, oups, ça a disparu. Que ce soit parce que des gens disaient avoir vu un clown dans un parc, puis là, c'était la peur du clown qui devait attaquer, puis ça dure 2 semaines, puis on ne parle plus du clown, on passe à autre chose. Mais c'était un peu la même chose, l'histoire des drones. C'est amusant parce que quand j'avais parlé d'hystérie collective, je te le dis, là, Camille, il y a vraiment des gens qui m'ont écrit, qui m'ont tenu vraiment un discours ordurier en me traitant de tous les noms.
Ben oui,
vous ne savez pas, vous dites n'importe quoi, faites vos recherches. Puis je me rappelle, il y a même une femme qui était tellement ordurière là, que je lui ai envoyé une copie. J'avais le rapport du FBI, parce qu'il faut savoir que le 16 décembre 2024, il y a eu un communiqué conjoint du département de la défense, de la FAA, le bureau de l'aviation civile, la sécurité intérieure et du FBI. Ils ont émis un communiqué commun et le FBI a rendu public son rapport d'investigation. Je lui ai tout envoyé. J'avais tous les documents en PDF. J'y ai tout envoyé et j'y ai répondu. J'ai dit, je ne veux pas que vous me je ne veux même pas avoir votre commentaire.
Un accusé
je n'ai
de réception,
pas envie.
Puis... Ouais,
je, ouais. Même pas. Je n'ai vu envie de aucun contact avec vous. Aucun. Zéro. Puis je l'ai barré.
Correct.
Et, bon, Mais tout ça pour te dire que c'est hier, Caroline Leavitt, qui est la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche, dans un point de presse qu'elle a donné hier, justement, des journalistes qui étaient présents dans la salle de presse de la Maison-Blanche l'ont questionnée à propos de cette histoire de drone inconnu. Et il faut quand même le dire, c'est à l'époque, en décembre dernier, il y avait même un représentant républicain qui avait parlé d'un vaisseau-mère venu du Moyen-Orient qui larguait des drones au-dessus des États-Unis. Et là, le département de la Défense avait dit ça, c'est de la foutaise, là. Mais quand même, tu vois, ça avait fait quand même son chemin. Bref, avant-hier, Caroline Leavitt a fait un point de presse et l'a questionnée par un journaliste à propos de cette histoire de drone. Elle a répondu ce que j'avais moi-même évoqué, que tout ça était de l'hystérie collective, que les phénomènes qui avaient été observés étaient clairement des drones. Il y avait des avions, bien sûr, il y avait des planètes qui avaient été aussi confondues. Et pour ce qui est des drones, c'était des drones qui avaient l'autorisation du Bureau de l'aviation civile. Il y avait là-dedans des drones qui étaient des drones commerciaux, il y avait des drones qui étaient des drones civils, mais tous ces appareils qui étaient en l'air à ce moment-là étaient tous des appareils qui avaient autorité d'être en l'air et il n'y avait aucune menace là-dedans. Tout ça n'a été qu'un phénomène d'hystérie collective.
Ah tiens, ça voilà. Dit quelque chose, et, ce discours.
La seule chose que j'ai trouvé un petit peu je veux pas faire de politique, mais j'ai trouvé un petit peu moche qu'elle évoque qu'en décembre dernier, elle dit, en décembre dernier, le président Trump avait dit que l'administration Biden était au courant de ça, puis qu'il voulait pas, il savait ce que c'était, puis il voulait pas le dire au public. Comme si, là, maintenant, elle le disait, wow, je fais la révélation et merci à M. Trump. Mais c'est pas vrai, là. Ça, c'est faux. Comme je l'ai mentionné, le 16 décembre, il y a eu un communiqué conjoint entre les différents services impliqués qui avait rendu public cette information-là. Donc, je comprends qu'elle veut attribuer à son boss la grande révélation, mais bon, là, c'est un peu tiré par les cheveux. Il y avait déjà en décembre dernier, les autorités avaient déjà annoncé ce que c'était et qu'on était clairement en présence d'un phénomène d'hystérie collective. Donc, je te mentionne que tous les gens, il y a même un ufologue québécois qui a même pris une de mes déclarations à la radio pour la mettre sur son site web pour me diaboliser en disant « Gare, encore une fois, Christian Page, je ne sais pas de quoi il parle. » Bien, tu seras surprise que depuis la révélation, depuis le communiqué de Mme Leavitt il y a deux jours, aucune de ces personnes-là m'a appelé pour s'excuser.
Ah, c'est resté silencieux?
Mais ils sont restés silencieux. Mais bon, bref... Pour ceux qui se posaient la question à propos de ces fameuses observations, c'est un phénomène d'hystérie collective. Puis c'est normal, c'est pas quelque chose qui relève d'une population peu éduquée ou quoi que ce soit. Il ne faut pas chercher là-dedans. C'est un phénomène d'entraînement public. Ça se produit comme ça. Si demain matin, par exemple, quelqu'un se met à raconter dans un parc à Québec qu'il veut un individu louche avec, je ne veux pas rappeler des mauvais souvenirs, mais avec un sabre ou quelque chose comme ça, ben, tu peux être certain, même si ce n'est pas vrai, que dans les jours qui vont venir, des gens vont témoigner qu'ils ont vu quelqu'un de louche dans le parc avec un sabre, etc. C'est un phénomène sociétal, ça se produit comme ça, c'est des rumeurs non fondées, des espèces de légendes urbaines qui apparaissent, qui durent momentanément. Et ce phénomène des drones, il aura suffi de quelques observations tout à fait légitimes de véritables drones. Moi, d'ailleurs, j'avais évoqué qu'il est possible qu'à ce moment-là, en décembre, il y a eu une augmentation des vols de drones à la fois commerciaux et privés parce qu'on a vu pour les fêtes du Nouvel An, que ce soit les fêtes de Noël ou vraiment de la nouvelle année, on a vu des spectacles aériens magnifiques d'ailleurs, avec des drones. Hein? Je ne sais pas si tu as eu la chance d'en voir, mais c'est spectaculaire.
Non, j'ai pas vu encore.
Des figures dans le ciel et avec des centaines et des centaines de drones, c'était vraiment magique. Hein? On fait apparaître des dragons, des figures, c'est incroyable. Hein? C'est l'habilité des gens qui contrôlent ces drones-là, c'est tout à fait fantastique. Et quand cette histoire-là est apparue en décembre dernier, j'ai dit, il ne serait pas étonnant que certaines personnes soient des gens qui se pratiquent avec des drones, justement parce qu'ils font partie d'organisations qui vont préparer un grand spectacle de fin d'année en utilisant des drones. Et c'est exactement ce qui semble ressortir de l'enquête menée par les différents services impliqués. Donc, un phénomène d'hystérie collective, et je pense qu'on ne reparlera pas des drones de la côte Est avant un petit moment.
Toujours dans les UAP, un nouveau lanceur d'alerte, Christine.
Oui, ça, c'est amusant parce que je voulais en parler. Je sais que le temps file, donc on va essayer de faire ça vite.
On a encore une dizaine de minutes.
C'est un... Il y a une espèce de réseau de nouvelles sur le web qui s'appelle News Nation. Et certains de leurs animateurs font beaucoup dans l'OVNI, le truc étrange. L'un d'entre eux s'appelle Russ Coulthard. Et lui, son dada, c'est les ovnis. Donc, il a présenté à la presse sur la chaîne News Nation. Il a présenté plusieurs lanceurs d'alerte dans la question des ovnis. Et le 18 janvier dernier, il présente un nouveau lanceur d'alerte, un certain Jacob, ou Jake pour les intimes, Barber. Et on le présente comme étant un ancien de l'US Air Force, pilote d'hélicoptère. Et là, ce type raconte, comme c'est souvent le cas, des histoires un peu fantastiques. Hein? Il dit, bon là, on nous montre tout son pédigré, tout son CV. Oui, c'est un ancien militaire, etc., pilote d'hélicoptère. Et là, le type tient un discours. Il a fait partie d'opérations spéciales qui visaient à récupérer des ovnis. Bon, et une histoire qu'on connaît déjà, qui roule depuis des années, des décennies, je dirais même. Et là, la petite touche un peu spéciale, c'est qu'il dit que les ovnis sont en lien avec une organisation spéciale de sensitifs, des médiums, si tu préfères, des psychiques. Hein? Puis ces gens-là ont des échanges télépathiques avec les extraterrestres qui viennent avec les ovnis. Donc, ça là est un petit peu une touche nouvelle, hein? Parce qu'il faut, on dirait qu'il ratisse large notre Jake Barber, parce qu'il faut savoir qu'entre le début des années 70 et 1995, le gouvernement américain a tenu un projet qui s'est appelé le projet Stargate. Et dans le projet Stargate, ça visait à engager des sensitifs, des voyants, si tu préfères, ouais, pour faire ce qu'on appelait du remote viewing, de la vision à distance. Donc, à Fort Meade, aux États-Unis, on avait comme vraiment créé cette unité spéciale de voyants. Puis on les plaçait dans des pièces isolées. Et là, on lui donnait des cartes, puis il devait essayer de visionner ce qu'il voyait. C'est des cartes qui étaient à l'étranger, par exemple en Russie. Puis là, il décrivait ce qu'il voyait sur ces endroits-là, puis etc. Donc, ça n'a pas très bien fonctionné. Il y a eu des bons résultats, mais comme c'était souvent en dentiste, on ne pouvait rien utiliser sur le plan stratégique, pardon, ça n'avait aucune utilité. Tu sais, tu ne peux pas monter une opération en te croisant les doigts et en te disant, ben, généralement, le mardi, mon médium, il est bon. Il est moins bon le mercredi puis le jeudi, mais le mardi, d'habitude, il est bon. Puis là, s'il nous a dit qu'il y aurait une attaque nucléaire, c'est probablement qu'il va y avoir une attaque nucléaire. Puis là, finalement, si tu rates ton coup, t'es un peu fourré. Là. Si tu dis, ouais, on a monté une opération sur les révélations d'un médium, c'est un peu faible. T'sais. Donc, finalement, en 1995, le département de la Défense, mais principalement la DIA, la Defense Intelligence Agency, qui est un service de renseignement pour les militaires, qui est un peu l'équivalent de la CIA.
Ouais.
Donc, la DIA s'est retirée de ce projet, le projet Stargate. Et là, voilà que notre Jacob Barber lui dit, ces gens-là, c'est un peu comme s'il y avait une autre unité qui avait découlé du projet Stargate, et là, ces médiums-là sont en contact avec les extraterrestres et tout le reste. Bon, OK, mais inutile de dire qu'il raconte une belle histoire, mais encore une fois, aucune preuve à son propos. Dans cette entrevue qu'il a donnée le 18 janvier dernier, il dit notamment qu'il a lui-même participé à une opération où on avait récupéré un objet qui ressemblait à un œuf. Et durant l'entrevue, on nous montre une vidéo qui est en noir et vert, là, donc en vision nocturne.
Ouais.
Et là, on voit une espèce on a l'impression que c'est filmé comme depuis le ventre d'un hélicoptère. On voit une grande perche et au bout de la perche, on voit un objet en forme d'œuf qu'on dépose sur le sol. Cette vidéo-là, c'est bien important de le préciser, cette vidéo-là n'est pas une vidéo tournée par le lanceur d'alerte, Jacob Barber. Elle proviendrait apparemment d'une autre source qui aurait donné ces images-là à Ross Coulthard, qui était le journaliste qui faisait l'interview. Mais évidemment, on a tendance à faire l'association des deux, puisque l'image semble montrer ce que décrit Barber. Sauf que cette vidéo-là, elle est décriée à peu près par tout le monde comme étant ou bien une fraude. C'est tellement mauvais que c'est ou bien une fraude, ou bien c'est autre chose. Il y a même des gens qui ont il y a des spécialistes qui, en voyant ces images-là, ils ont dit ça, là, c'est un ballon sonde. Hein, c'est une perche qui tient un ballon sonde. Donc, la vidéo n'est pas très convaincante et notre Jacob Barber ne fournit aucune preuve, encore une fois. C'est un autre quelqu'un qui raconte une bien bonne histoire. Et ce qui m'a frappé en regardant cette entrevue, c'est de voir à quel point, à chaque fois qu'on fait des entrevues comme ceux-là, on insiste sur le rôle ou le pedigree, hein, si je peux dire, de l'individu qu'on interviewe. Et là, dans ce cas-là, on dit « Ah oui, c'est un militaire, puis il a été décoré, puis ci, puis ça. » Puis je me dis, mais ça, c'est ce qu'on appelle un biais d'autorité. Là. Ça n'empêche pas de dire n'importe quoi. Là. Je veux dire, je veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais tu sais, je veux dire, le nombre de mensonges que Donald Trump peut lancer dans une journée ou dans sa campagne électorale, puis je veux pas faire de politique, mais tu sais, bon, c'est pas parce que t'es... Tu sais, t'as le droit à tes croyances, puis de raconter ce que t'as envie de raconter, là, ça apporte rien. Et ça m'a rappelé, tu sais, il y a des trucs qu'on entend des fois qui sont quand même troublants. Là. Rappelle-toi, juste avant la période de Noël, on avait parlé d'un documentaire sur les ovnis qui avait été fait par George Knapp, qui s'appelait Investigation Alien, qui était présenté à Netflix. Et je me rappelle une des pires absurdités que j'ai entendues dans ce reportage-là. C'est un type qui s'appelle Douglas Lowes, qui est on nous le présente, c'est un ancien agent de la CIA. C'est un agent de la CIA, c'est sûr ce qu'il dit, c'est sûr que c'est vrai. Et j'ai entendu une bêtise incroyable. À un moment donné, il enquête sur une histoire de mutilation animale. Il est dans un champ, il y a un taureau qui est mort. Et là, l'agriculteur raconte à ce Douglas Lowes, il dit... Ben voilà, mon taureau est mort, puis là, quand je suis revenu, là, ben, il y avait des marques de prédation sur le taureau, mais il n'y avait pas de sang, tu sais. Et ce Douglas Lowe, ancien agent de la CIA, donc c'est sûr, ce qu'il dit, c'est vrai, 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 il dit un taureau, il dit ça doit avoir 50 litres de sang, puis il dit, il n'y avait pas de sang en terre. Puis l'agriculteur dit, non, il n'y avait pas de sang en terre. Et là, Lowe regarde la caméra, il dit, hey, ça, c'est vraiment très mystérieux. Ça, c'est d'une absurdité, là, mais déconcertante. Les gens qui nous écoutent ce soir, s'il y a même des étudiants en médecine vétérinaire, ils te diront que quand une vache ou un taureau meurt, après trois heures, le sang commence à coaguler dans les veines. Donc, s'il y a un prédateur qui arrive et commence à le dévorer, il n'y aura pas de sang qui va couler, le sang a séché dans les veines.
Déjà, ouais.
Et ça, là, un étudiant de première année en médecine vétérinaire pourrait te dire ça. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Là. C'est comme un corps. Hein. S'il y a un cou qui est mort, si ça fait deux jours qu'il est mort, tu y tranches la gorge, il n'y aura pas de sang qui va couler. Hein. Le sang a séché et a coagulé dans les veines. Quand je vois ce type-là, on nous le présente comme un ancien agent de la CIA et qui nous sort une bêtise, mais désarmante comme celle-là, tu te dis, gars, au lieu de nous mettre un gars de la CIA, tu aurais été bien mieux de nous mettre en dessous, là, voici Marcel, étudiant en médecine vétérinaire. Puis on est sûr qu'il aurait dit beaucoup moins de bêtises. Donc, il faut faire attention avec ça. Là. Quand on nous présente des gens comme ça et qu'on insiste trop sur leur CV, là, dites-vous, là, est-ce que cette personne-là a réellement la compétence pour parler de ce qu'il dit? Un agent de la CIA, il est peut-être excellent pour parler de l'espionnage, mais c'est quoi ses connaissances en médecine vétérinaire? Ben, strictement zéro.
C'est le terme expert qui est pris au sens le plus large. On dit, ah, parce que c'est un expert dans un domaine, il connaît tout.
Voilà, et ça, c'est frappant dans l'univers des ovnis et du paranormal en général de jouer sur cette carte-là, de nous présenter le CV d'un individu comme si on voulait nous préparer. Écoutez, là, ce gars-là, il a un gros CV, donc tout ce qu'il vous raconte, ça doit être forcément vrai. Mais non, et ce type-là, moi, quand je l'ai entendu, là, je me suis dit, honte à toi, là. Si j'étais ce Douglas Lowe, là, je me serais mis un sac de papier sur la tête. Voyons donc, t'sais, n'importe quel étudiant en médecine vétérinaire va dire ça. Ben, quand l'animal est mort, après 2-3 heures, c'est sûr qu'il n'y aurait plus de sang qui va couler. Ça.
Ouais, ce qui a été accoulé, a coulé.
Ouais. C'est ça. S'il n'y avait pas une plaie extérieure, là, parce que si l'animal est mort, par exemple, puis imaginons un bovidé qui meurt d'une crise cardiaque ou d'une maladie, un virus quelconque, ben, il tombe dans le champ. Bon, ben, si les prédateurs ne vont pas l'attaquer immédiatement, là, les prédateurs arrivent 2 ou 3 heures après, 4 heures après, ben, le sang a déjà commencé à coaguler dans l'organisme. Donc, il n'y aura pas d'écoulement sanguin. Donc, on n'en trouvera pas sur le sol. Donc, c'est cette histoire-là de « il n'y a pas de sang sur place », quand j'entends ce discours-là tenu par les amateurs de trucs super mystérieux, ben là, tu te dis c'est du grand n'importe quoi. Et surtout d'insister sur cet aspect de ce biais d'autorité en nous disant « ah, c'est sûr que ce gars-là, il a un gros CV, donc forcément, ce qu'il raconte doit être vrai ». Ben, faut se méfier de ça.
Et là, quand on contredit vos croyances, ben, ayez au moins l'humilité de dire « je me suis trompé ». Je pense que c'est ça aussi ben, pour tenir.
Il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, il dit « une personne intelligente, lorsqu'on le place devant des faits qui contredisent ses croyances, il accepte de changer ses croyances.
Il faut.
Mais quelqu'un qui a ses croyances et que tu lui présentes des faits qui contredisent ses croyances et qui continue de se maintenir dans ses croyances, bien ça, on appelle ça de l'endoctrinement.
Et c'est malheureusement dans la communauté des amateurs d'OVNIs un 50-50. Je vais être poli.
Oui, t'as beaucoup d'endoctrinement là-dedans. Excuse-moi, mais c'est malheureusement le cas. Ouais.
Christian, c'est tout le temps qu'on avait ce soir, mais je te remercie. C'est, à suivre, 3 petits points pour l'épisode de ce soir. Concernant Pascal Goulant 73. Je te remercie beaucoup. On se retrouve lundi prochain pour Suspect X de notre côté. On s'en va quasiment dans du folklore lundi prochain avec une histoire au féminin cette fois-ci. Ça
ouais,
promet.
Absolument.
Bon week-end aux auditeurs et maintenant, changement de formule à la station. C'est la sexploratrice qui suit dans les prochaines minutes et c'est même à Radio X. Christian, on se dit à la semaine prochaine.
Oh, la sexploratrice. Je reste à l'écoute.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Ciao.
Bye.